Dans ce journal, on s'intéresse à l'atoll de Hao, l'État et le pays ont parlé développement hier. Et puis après les faits divers, on vous présente la sélection tahitienne de triathlon pour les Jeux du Pacifique. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
L'État et le pays confirment leur engagement pour le développement de Hao.
Oui, nouveau point d'étape sur l'atoll hier. Depuis la venue du président de la République au Fénois il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de nombreux projets émergent à Hao. Et hier, une délégation de l'État, du pays, mais aussi de certains gradés du RSMA s'est rendue sur place pour faire le bilan de ce qui a été fait et aussi discuter de ce qu'il reste encore à faire. Alors il est question notamment de la réhabilitation du port de l'atoll pour en faire une zone de plaisance et de carénage. Le projet porté par Dominique Gaucher, actuel exploitant de Rayatea Carénage, un investisseur privé expérimenté qui doit obtenir une autorisation d'occupation temporaire. On écoute le président Moetei Brotherson.
Sur l'ensemble de ces projets, en fait, il y a toujours, quand il s'agit du domaine public, des autorisations à obtenir de la part du pays. Ce projet est très très intéressant puisque Hao se situe sur la route est-ouest de la plupart des voiliers qui circulent dans l'océan Pacifique et pour eux, c'est intéressant de pouvoir, au lieu d'aller en Nouvelle-Zélande par exemple, faire leur carénage ici.
Un autre sujet de discussion plus sensible, les conséquences des essais nucléaires. Le haut commissaire a évoqué dans son discours une dette à Hao qui serait plus importante qu'envers le reste de la Polynésie française.
Il reste 6 sites à dépolluer, 3 plutôt par des carburants, 3 par des métaux lourds. Et on a donc une équipe scientifique de niveau mondial qui va essayer de dépolluer avec des plantes. Donc il y a une équipe du CNRS qui va venir ici pour voir comment on pourrait faire ça pour les parties polluées par les métaux lourds. Pour les autres, ce sera plus rapide.
Le grand nettoyage doit se poursuivre et un calendrier prévisionnel a été édité, mais il reste à valider. Et enfin, lors de cette visite, Eric Spitz a aussi soufflé au gouvernement l'idée de réhabiliter l'aéroport de Hao pour en faire un aéroport de dégagement que le Tavini projetait plutôt de faire à Rangiroa.
Et toujours à Hao, on s'intéresse cette fois au RSMA.
Oui, pour rappel, le 4e régiment du service militaire adapté est installé sur l'île depuis 1 an. Hier, la délégation État-Pays a profité de sa visite pour faire le tour du propriétaire des locaux provisoires de l'établissement. Alors pour rappel, c'est dans l'ancienne bâtisse de l'école maternelle de l'atoll que les stagiaires sont installés depuis octobre de l'année dernière. En 1 an, le régiment a doublé ses rangs, passant d'une 20aine à 40aine d'élèves, ce qui implique un nombre d'encadrants plus important, mais aussi une meilleure dynamique économique sur l'île. Des chapiteaux faisant office de salles de cours ont été installés et un fa-apu a été aménagé dans l'enceinte de la base. Des aménagements nécessaires puisqu'ils doivent servir encore au moins 4 ans. La livraison des bâtiments flambant neufs du RSMA étant prévue pour 2030, avec des premières intégrations échelonnées à partir de 2027. Alors le haut-commissaire Eric Spitz parlait hier de ce projet comme un facteur clé du développement de l'atoll, avec beaucoup plus d'argent qui sera investi, dit-il, sans parler des nombreux emplois qui seront bien créés dans le cadre des travaux. Dans les années à venir, l'offre de formation dispensée devrait elle aussi se développer. Une aubaine pour la jeunesse des Tuamotu, selon Isolde Butcher, la mairesse de l'île qui insiste sur le fait que le RSMA n'est pas qu'une porte d'entrée pour l'armée.
Il faut que le jeune, quand il rentrera chez lui, qu'il prenne des initiatives de faire pareil qu'ici, quoi. Voilà un peu le but du RSMA. C'est qu'ils apportent quelque chose et qu'ils ne rentrent pas le fait de venir et de partir, de s'engager à l'armée. Parce qu'avec ça, j'ai l'impression que nos jeunes ici commencent à se plaire un peu à l'armée. Ils veulent partir, ils veulent découvrir le monde. J'ai beaucoup de jeunes qui partent aussi à l'armée. Et puis là, maintenant, est-ce que ça va donner de l'emploi? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les jeunes pourront créer leur emploi chez eux.
Isolde Butcher au micro de Vaikiare Perer, la mairesse de Hao qui, même si elle se réjouit de la création de cette nouvelle compagnie, craint un éventuel vieillissement de sa population qui s'oriente selon elle de plus en plus vers l'armée.
Les Polynésiens qui étaient en Israël sont arrivés en Jordanie.
Oui, ils étaient 34 pèlerins à être bloqués en Israël, coincés par le violent conflit qui a débuté il y a 5 jours entre l'État hébreu et le mouvement palestinien Hamas. Et le groupe a pu gagner la Jordanie en bus aujourd'hui. Il va ensuite se diviser en 2. Certains vont rentrer sur Paris via Rome, d'autres par Istanbul. Les Polynésiens devraient ensuite arriver au Fénois dimanche soir. A noter que 10 Français sont décédés dans ce conflit qui a déjà fait près de 2300 morts.
Et au tribunal, une pièce jointe oubliée va coûter cher au pays.
Oui, Véronique Zelensky, ancienne rapporteure générale de l'autorité de la concurrence, elle avait été licenciée en octobre dernier et contestait cette décision, affirmant être victime d'une cabale orchestrée par la présidente de l'autorité. Considérant que ni la présidente de l'APC ni le président du pays n'avaient de pouvoir disciplinaire sur elle, elle estimait irrégulière les enquêtes internes et administratives menées sur son compte. On écoute les explications de Caroline Perdri.
Véronique Zelensky demandait donc le paiement des traitements et des primes qu'elle aurait dû recevoir d'octobre 2022 à janvier 2024, date de la fin de son contrat originel, ainsi que la somme de 5 millions de francs en réparation de son préjudice moral et le bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour le tribunal administratif, la question du pouvoir disciplinaire, y compris sur la rapporteure générale d'une autorité indépendante, est vite réglée. Il appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. En revanche, la décision du président du pays n'était pas accompagnée lorsqu'elle lui a été délivrée du rapport de la Direction de la modernisation et de la réforme de l'administration sur lequel se fondait la décision. Le tribunal administratif retient donc un défaut de motivation qui rend la décision illégale.
Et le pays a donc un mois pour régulariser la situation administrative de Véronique Zelensky, c'est-à-dire pour la licencier à nouveau avec les formes cette fois et en lui versant les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis octobre 2022.
Un fait divers, le corps d'un pêcheur retrouvé hier à Tahaa.
Oui, un corps sans vie à proximité d'un kayak retourné a été retrouvé au nord de l'île mardi, a appris le JRCC Tahiti. Selon un communiqué du Haut-Saria, les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, mais le médecin n'a pu que constater le décès de la victime. Âgée de 88 ans, elle était partie le matin même pour aller pêcher.
Les Jeux du Pacifique, c'est dans un peu plus d'un mois.
Et on connaît la sélection qui prendra part aux épreuves de triathlon et d'aquathlon aux îles Salomon, avec des habitués et de la nouveauté. Alors parmi les 6 athlètes figurent 2 cadets de 17 ans, Neinoa Tanetoa et Maïdi Susset. Le premier connaît déjà le niveau régional, il a terminé 10e des mini-jeux en 2022. En revanche, pour la seconde, c'est une découverte, puisqu'elle n'avait jusqu'à cette année pas les 5 ans de résidence requis pour représenter Tahiti. Avec 2 jeunes à ce niveau, le directeur technique de la fédération tahitienne, Rémi Segar, voilà une réussite de la politique mise en place depuis 5 ans.
Une cadette et un cadet dans la sélection, c'est aussi par rapport à toute cette structuration des clubs, à la formation des entraîneurs et aujourd'hui, ça permet de mieux encadrer les athlètes dans les différents clubs affiliés à la fédération. Et aujourd'hui, on prouve que dans cette formation, elle est par un résultat qui permet de sélectionner deux jeunes cadets qui ont répondu aux critères des chemins de sélection et qui sont vraiment d'un niveau assez intéressant dans la région du Pacifique.
Et à leur côté, 2 chefs de file, Salomé de Barthès, 2 fois médaillée d'argent sur le triathlon en 2015 et en 2019, elle visera l'or cette année, et Benjamin Zorniotti, champion des Jeux en titre chez les hommes, tous deux courent régulièrement en métropole. Genaël Roby, 5e des mini-jeux en 2022, et Jean-Marc Rimaud, qui est en bonne forme ces derniers mois, complète cette équipe. Rémi Segar nous parle de ses 2 équipiers, en commençant par Genaël Aubry.
C'est une athlète très régulière, très performante, et qui aura à cœur d'aider l'équipe à obtenir les plus belles médailles. Et puis Jean-Marc qui comme pour Maïdi, n'avait pas les 50 territoires l'année dernière. Aujourd'hui, il est là pour les Jeux. Un athlète aussi performant et régulier sur les courses locales. Donc voilà, c'est des athlètes qui néanmoins sont classés 2e ou 3e dans leur sélection, mais qui auront à cœur d'être vraiment de très très bons coéquipiers et qui potentiellement pourrait monter sur la boîte.
Il reste à savoir si cette sélection fera aussi bien qu'en 2019. À Samoa, les Tahitiens avaient presque réalisé un sans faute dans les disciplines enchaînées, en décrochant 5 médailles d'or sur 6 possibles. Alors cette année, il faudra faire comme souvent face aux Calédoniens, d'autant que cette année, nos voisins du Pacifique pourront compter sur Hugo Tormento, champion du monde de swimrun et donc particulièrement redoutable sur l'aquathlon. Chez les dames, Guam sera aussi particulièrement surveillée, avec sa représentante Manami Ijima, qui avait dominé les mini-jeux l'année dernière au Marianne. Et malgré cette concurrence, la fédération a des ambitions très élevées, décrocher toutes les médailles d'or. Il y en aura 5 en lice, 4 en individuel sur le triathlon et l'aquathlon, et une en équipe avec le relais mixte de triathlon. Et en attendant les Salomon, les triathlètes ont rendez-vous ce week-end pour les championnats de Polynésie, qui sont organisés sur le même format que les Jeux, à savoir une série qualificative de 400 mètres de nage, 10 km de vélo et 2,5 km à pied, avant la finale disputée peu après sur les mêmes distances. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté. Le retour de l'actualité, ce sera avec le flash de 16h.
Merci beaucoup, Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
On vous en parle depuis ce 8 septembre ici à l'antenne de Radio 1, cette Coupe du Monde de rugby à 15-2023 qui se déroule en métropole. La première partie de cette Coupe du Monde, la phase de poule est désormais terminée. Place maintenant aux phases, au match à élimination directe avec les quarts de finale qui approchent à grands pas. Ça y est, c'est déjà ce week-end. Et on est avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Et Yorana Kevin, Yorana à tous.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va, écoute, on attendait ça avec impatience. Hein. Maintenant, les phases de poule sont terminées. On va avoir des chocs colossaux avec 4 matchs hyper intéressants samedi et dimanche. Ça va être à élimination directe.
Exactement, 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. Le premier match, ça sera les Pays de Galles contre l'Argentine du côté de Marseille.
Oui, tout à fait. Bah, écoute, tu sais, après le coup de tonnerre du Portugal qui a battu les Fidji, mais il se qualifie quand même, eh bien, on va avoir ce match Galles-Argentine pour commencer, effectivement. Donc, les Gallois, ils sont terminés premiers de cette poule et les Argentins second de la poule D. Donc, ça va être une belle confrontation. Il va y avoir 4 équipes Europe de l'hémisphère sud et 4 équipes de l'hémisphère nord. Si on doit parier, je pense que le Pays de Galles peut passer.
Ce sera un match serré parce que c'est quand même la 7e meilleure équipe au monde face à la 8e hein, est donc l'Argentine. On va dire que ça sera un score, je pense, très faible en termes de distance entre les deux.
Oui, très certainement, tout à fait. Je fais quand même une pièce pour le Pays de Galles.
C'est noté, on verra bien voilà. Ça la semaine prochaine, alors si tu as bien raison. Le deuxième match de ce quart de finale, ça sera bien sûr l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Et quelle affiche hein.
Là, c'est une revanche aussi, je dirais, des All Blacks hein, face à l'Irlande, parce que c'est effectivement aux allures de revanche. Ils ont été battus à 2 reprises hein, sur leur terre lors de leur dernière confrontation, les All Blacks, et donc ils vont prendre leur revanche face à l'Irlande, qui est numéro 1 mondial, et c'est vraiment un choc. Ça va être très difficile de sortir un vainqueur. Les All Blacks, la Nouvelle-Zélande revient bien, attention, mais l'Irlande est très difficile à manœuvrer.
Match, bien sûr, on vous parlera du résultat la semaine prochaine. Il reste 2 matchs hein, pour ces quarts de finale. Vous savez quoi, on fera le point demain, juste après votre journal de midi.